contre-taf.
À contre-taf.
Les jeunes veulent travailler, mais ça manque d'opportunités et il faudrait aussi de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires.
À contre-taf.
À contre quoi ?
À contre-taf, toutes les 4 semaines, le mardi, de 20h à 21h.
Alors, c'est la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler.
Toi, tu vas un peu à contre-taf. Sur Radio Campus 93.9 FM.
Faire le travail qu'on choisit et qu'on aime, c'est un luxe pour toute la vie.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est Francesca à l'animation. Vous êtes sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 pour cette nouvelle émission à contre-taf. À contre-taf, donc, comme son nom l'indique, nous allons parler taf, travail, parce que le travail, c'est l'affaire de tous. Il paraît que cette émission n'existe pas. C'est Philippe, notre chargé d'antenne, qui l'a dit. Tant mieux, et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que Hugo à la co-animation, Félix au Flash Info, Simon à la Réal et moi allons porter ce sujet qui nous touche tous, le travail. Pourquoi cette émission ? Parce que le monde du travail bouge, et vite, et parfois violemment. Jamais les transformations n'ont été aussi brutales. Transformation technologique, urgence écologique, attente sociale, et pourtant certaines entreprises semblent encore être coincées au Moyen-Âge. Face à ça, il nous faut un espace et ce sera ici désormais, une fois par mois, le mardi, toutes les 4 semaines. Un endroit pour poser nos voix, toutes les voix. Et quand je dis toutes les voix, je parle des salariés, employés, employeurs, recruteurs, coachs, RH, représentants de la législation, jeunes en quête de sens, seniors bousculés, managers paumés. Jamais le travail n'a été aussi morcelé, mais il ne peut perdre son rôle de ciment social. Cette émission, c'est pour comprendre, et pour comprendre, il faut écouter. Elle se déroulera en 5 temps, des interviews pour raconter, témoigner, confronter et solutionner. Un flash info, le tour de l'actualité du management. Un point innovation pour découvrir des nouveaux outils, des méthodes, les nouvelles façons de travailler, l'horoscope des métiers, les secteurs qui recrutent, les salons à ne pas manquer, les tendances à suivre. Et enfin, une chronique humoristique pour terminer. Notre ambition est simple, éclairer le présent pour mieux construire l'avenir ensemble. Et cet avenir ne se fera pas sans dialogue, sans rencontre, sans confrontation. Le monde du travail d'aujourd'hui et de demain ne pourra pas se construire sans nous et sans vous. Alors bienvenue dans cette émission, bienvenue dans votre émission à contre-taf, l'émission qui remet le monde du travail dans le bon sens.
À contre-taf sur Radio Campus Paris.
Allez, va bosser, feignant.
Le boulot, c'est le boulot.
Au programme de cette émission, à l'interview, ce sera Hugo avec nos invités Eugénie Lamarlère, chef de projet dans l'événementiel et chargée de relations presse, communication et marketing des Jeux Olympiques et Paralympiques pour un organisme de promotion en Ile-de-France. Nicolas Lévy, notre deuxième invité, entrepreneur, manager, dirigeant chez Darwins. Le sujet du jour, on dit que les jeunes ne veulent pas travailler, mythe ou réalité. Le Flash Info avec Félix qui nous emmène faire un tour de l'actualité du management. Rubrique innovation, nous accueillerons Vincent et Sofiane, les fondateurs d'une appli qui s'appelle Wapli. On dit aussi le Tinder de l'emploi. Ensuite, nous parlerons salon dans l'horoscope des métiers. Et enfin, nous terminerons avec la chronique humoristique de Hugo. Vous êtes à Contre-Taf. On est en direct sur Radio Campus Paris jusqu'à 21h sur le 93.9.
On dit que les jeunes ne veulent pas travailler. Qu'en pensez-vous ?
Alors les jeunes veulent travailler, mais ça manque d'opportunités et il faudrait aussi de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires.
Pour moi, par rapport aux jeunes que je vois ici, je pense qu'ils ne veulent pas travailler parce qu'ils essayent de voir loin avant de commencer en bas. Ils veulent devenir des patrons avant de commencer sur le mode de salarié.
Non, je ne pense pas que les jeunes n'aient pas envie. C'est une génération en fait qui a changé. Et c'est pareil, en fait, on prend conscience que bah, une vie, on n'en a qu'une. Et ils ont raison de se battre, en fait.
Bah, je pense que ni les jeunes ni les vieux veulent travailler. Hein. Le monde du travail aujourd'hui a peu d'attrait. Donc évidemment que personne ne veut travailler.
Je pense que c'est faux, mais de nos jours, c'est pratiquement impossible de trouver un travail qui nous plaît et qui est bien payé. Donc ça peut se comprendre qu'ils n'ont pas envie de travailler.
Enfin, c'est comme partout, hein. Il n'y a pas des foudres de guerre partout, mais il y en a qui en veulent et il y en a qui en veulent moins. Enfin, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Enfin, je veux dire, après, ceux qui ne veulent pas bosser, bah, ils veulent rester chez leurs parents à vie. Je ne sais pas comment ça se passe pour eux, les projets d'avenir. Parce qu'il y a tout le mal-être des jeunes aussi, hein, de se trouver. Moi, mon fils, il va avoir 18 ans au mois d'août. Bah, se trouver, ce n'est pas simple. Hein. Ça va au-delà de on veut ou pas travailler. C'est déjà, c'est, est-ce qu'il y aura des débouchés dans le secteur dans lequel on se voue? Enfin, voilà, c'est pas simple. Hein.
Vous avez entendu un micro-trottoir à l'instant. Eugénie Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Il y a une légère erreur, je précise, dans l'énoncé. Eugénie, vous étiez avant chef de projet. Aujourd'hui, vous recherchez un emploi.
Tout à fait, en recherche d'emploi, à l'étranger.
À l'étranger, exactement. Vous avez chacun écouté le micro-trottoir. Eugénie fait partie de la génération Z de 1997 à 2012. Qu'est-ce que vous pensez de l'extrait qu'on a écouté à l'instant ?
Je pense qu'ils ont peut-être un peu tous raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas facile. On est dans un environnement social, économique compliqué qui a changé depuis des années et donc les générations se confrontent. Les opinions changent selon les générations et puis ben, je le vois même au sein de ma famille et de mon entourage. Donc c'est, voilà, c'est intéressant.
Nicolas, vous êtes d'une autre génération, vous êtes un, qu'on appelle un millénial. Qu'est-ce que vous pensez de cet extrait qu'on a écouté juste à l'instant ?
Ben, merci de bien faire la différence entre les générations, mais aussi entre les époques. Je pense que quand j'ai commencé à rentrer sur le monde du travail, c'était effectivement assez standard de rester 10, 20 ans dans une société. Ça commençait à s'effriter, mais c'était encore un chemin classique. Aujourd'hui, on voit que c'est de moins en moins le cas, que les gens changent énormément de travail. Et il y a aussi, bon, on va parler de tout ça, tout ce qui est freelancing, les indépendants. Pour autant, je pense qu'en fait, c'est tout le monde qui change en même temps. Donc si on regarde les statistiques, aujourd'hui, les personnes plus âgées change également plus souvent de travail qu'à l'époque. Donc en fait, il y a tout un changement de société qui se fait et qui est peut-être l'idée par la génération Z ou les millénials. Et il y a une deuxième chose à dire, c'est quand on dit « les jeunes, qu'en pensez-vous ?», on a forcément tort dans la question, dans la façon de poser la question. Il n'y a pas un groupe de jeunes comme il n'y a pas des Asiatiques ou des gens qui se lèvent tôt. Voilà, les jeunes, c'est hyper différencié. Et donc, on pourra rentrer dans le détail. Mais donc moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai recruté beaucoup de gens dans des ambiances petites entreprises. En tant que consultant, j'ai conseillé des sociétés, des dirigeants de CAC 40 qui, eux, ont des jeunes, du coup, dans des entreprises beaucoup plus grandes. Et il y a une infinité de complexité à ça. Il y a un truc qui revient quand même et qu'on entendait bien dans l'interview, je trouve qu'il était très juste, c'est que ben, ce n'est pas facile en ce moment parce qu'on ne sait pas quel va être le monde du travail dans les prochaines années. Et ça, c'est clairement un nouveau sujet qui n'incite pas à s'installer pour la vie, quoi.
Mais dans l'extrait, du coup, que vous venez d'écouter, on entend quand même des réponses, des opinions. Et vous en pensez quoi ?
Ben, y a pas que des foudres de guerre, m'a fait beaucoup rire. J'ai l'impression que je la connais, cette personne. Oui, il y a de tout. Enfin, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait toute la palette. Hein. Donc il y a ceux qui... Enfin, en tout cas, moi, le premier truc que je vois, c'est le cliché. Le cliché, c'est les jeunes ne veulent plus travailler. Ça, c'est clairement un cliché. Je suis papa aussi d'enfants qui sont adolescents ou préadolescents, donc je me dis comment ils vont arriver dans ces choses-là. Donc la première chose, c'est peut-être d'être factuel. Est-ce que le monde du travail est le même que ce qu'il était il y a 20 ans ? Alors, factuellement, non. Le premier peut-être impact qu'on peut voir, c'est que le nombre de gens qui travaillent, qui ont un salaire et qui sont sous le seuil de pauvreté augmente énormément. Donc, avant, être salarié et avoir une carrière, ça signifiait probablement pouvoir acheter une maison et avoir une carrière. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc déjà, ce n'est pas que les jeunes qui ont changé, c'est la situation.
Si je peux ajouter aussi quelque chose qui est vraiment prégnant aujourd'hui, c'est que nous, quand on rentre dans le milieu du travail, on commence souvent par des emplois précaires et qu'avant, bah, la précarité, elle n'existait pas forcément. L'intérim et les CDD pour nos grands-parents, ça n'existait pas. Donc ça, c'est déjà aussi quelque chose qui a vraiment changé. Et nous, on arrive et on... peut rarement et difficilement avoir un emploi stable, comme on peut le dire, un CDI, dès notre entrée au travail, dans le monde du travail, et ça malgré nos diplômes qu'on nous a poussés justement à faire jusqu'au bac plus 5 en nous faisant croire que le monde du travail allait être super, qu'on allait trouver un emploi exceptionnel, et puis au final, c'est un peu la désillusion quand on arrive sur le monde du travail.
Et d'après vous, ça viendrait d'où ça ? C'est un mode de pensée des entreprises, c'est une incompréhension entre ce que vous voulez ou c'est vraiment une fracture, vous n'osez pas demander, ça vient d'où ?
Je pense que c'est... Par exemple, si on revient sur l'aspect générationnel, mmh. nos grands-parents ont toujours voulu faire des études. Ils n'ont pas forcément eu l'occasion et les ressources nécessaires. Nos parents ont peut-être eu plus d'opportunités pour les faire, ces études. Et puis nous, ben, on a eu la chance de pouvoir quasiment tous, enfin, même si ça coûte de l'argent de faire des études et que ce n'est pas donné à tout le monde, de pouvoir y arriver. Et je pense qu'en arrivant sur le monde du travail, sur le marché du travail, on aspirerait à des attentes, à une qualité de vie beaucoup plus, je dirais plutôt à la hauteur de nos attentes, de ce qu'on nous a fait penser durant nos études, mais pour justement nous encourager à continuer à faire des études et nous dire « vous allez bien gagner de votre vie ». Mais on arrive là et ce n'est pas forcément le cas.
Et vous, Nicolas, est-ce que vous recrutez, quand vous recrutez un employé, est-ce que vous regardez en premier lieu ces diplômes?
C'est une bonne question. Moi, je me pose trois questions quand je recrute. Est-ce que la personne est compétente? Donc, les diplômes, c'est forcément un indice. Dans le monde du conseil aussi, il peut y avoir des endroits où on a des profils qui vont être ensuite vus par des entreprises du CAC 40. Donc, il faut aussi que je me pose la question, comment est-ce que mon client verra ce profil? Donc, des fois, il y a un biais, effectivement, sur les écoles. Mais c'est un des seuls métiers, je pense, où c'est encore un passage obligé. Puisqu'on se dit, voilà... Vous ne connaissez pas quelqu'un, vous le prenez comme un consultant. Le nombre d'années d'expérience et le diplôme, c'est quelque chose qui est factuel. Donc, ça a tendance à être hyper visible. Alors que les compétences soft skills, la capacité de la personne à se débrouiller ou à avoir appris sur le tas est plus dur à voir sur un CV. Mais bon, là, c'est vraiment une exception pour le conseil. Sinon, moi, personnellement, je me pose trois questions. Est-ce que la personne est compétente? Est-ce que la personne est motivée? Parce qu'en fait, est-ce qu'elle a bien compris ce que c'était la boîte où j'étais et donc elle va s'y plaire? Et la troisième question, c'est est-ce qu'elle fit dans la culture? Est-ce qu'on va bien s'entendre avec? Est-ce qu'on a envie de passer un verre à la fin? Parce que je vois vraiment l'entreprise comme une famille et pas seulement... Enfin, une famille, c'est peut-être un peu fort, mais j'ai envie d'être dans un cadre où les gens s'entendent bien, quoi.
Mais est-ce que vous la comprenez, ce que demande Eugénie, cette qualité de vie que les jeunes recherchent?
Oui, alors moi, aujourd'hui, j'ai mis ma casquette de vieux, et donc qui travaille avec les grosses boîtes, et donc voilà, j'ai le costume du méchant. Mais dans la vraie vie, j'ai évité de travailler dans une entreprise pendant les 15 premières années de ma carrière. Je fais de la magie et du poker professionnel. Donc j'entends totalement, parce que je fais partie de ces premiers diplômés en informatique, qui a dit en fait, je ne sais pas si je suis très prêt à travailler dans une grosse boîte, et j'ai tout fait pour travailler dans une grosse boîte. Et de manière improbable, je me suis retrouvé ensuite à conseiller des grosses boîtes sur leur culture, parce qu'on est arrivé à un moment où elles ont capté que... Il y avait une disconnexion très forte entre l'entreprise et le vrai monde, et où elles se sont dit comment est-ce qu'on peut avoir une culture un peu plus start-up, un peu plus cool. Et c'est là que je suis arrivé en disant attendez, on va vous expliquer, vous inquiétez pas. Et voilà, avec des réussites et des échecs.
Alors, on est encore sur le constat. Est-ce que, Nicolas, vous sentez quand même, enfin, que ce que pense Eugénie, je ne dis pas que c'est vrai, mais en tout cas, on le ressent. On dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, ce qu'elle dit, Eugénie, veut quand même dire quelque chose.
Bah, y a deux cas.
Vu que vous conseillez les grosses boîtes, en plus, comme vous dites.
Voilà, y a deux. Alors, il faut distinguer deux cas. Il y a bien un cas qui est quelqu'un qui a des diplômes, veut et ne trouve pas un endroit stable où s'épanouir. Ça, il y a plein de jobs qui ne vont pas. Il y a plein de bullshit jobs. Il y a plein de situations de manager toxiques. Il y a plein d'entreprises qui ne savent pas trop alors qu'ils préfèrent prendre des freelances ou faire des jobs non permanents alors qu'elles pourraient. Clairement, les entreprises ont des reproches à se faire. Et il y a aussi un autre cas. Pour le coup, moi, je travaille dans des entreprises où on paye assez cher des profils de qualité. Et on est prêt à garder les gens le plus longtemps possible. Hein. Dans le monde du conseil, il y a 30% de turnover annuel à peu près. C'est assez dur. C'est plutôt les personnes ont tendance à vouloir faire 3-4 ans parce que c'est dur pour apprendre énormément et ensuite partir avec un CV qui a énormément augmenté. Mais dans ce monde-là, on s'aperçoit que c'est le contraire. C'est très difficile de garder les gens motivés alors qu'ils sont très bien payés et que leur place est assurée. Et pourquoi? Parce qu'il y a aussi une autre chose, c'est que les jeunes ont compris que le travail, c'était pas la vie. Et donc, on n'est pas prêt à accepter n'importe quoi et que aussi bien payé et stable soit le job, pour d'autres, c'est pas suffisant. Donc, on a un truc un peu particulier dans le monde du travail aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de profils qui correspondent pas forcément à ce qui est attendu par les entreprises et qui tournent de job en job et galèrent. Et de l'autre côté, on a plein de postes à pourvoir où on trouve pas les bonnes personnes. Je pense qu'il y a un sujet qui commence déjà dans les formations où on forme pas les personnes. Comme ça bouge trop vite, le nombre de places, par exemple, aujourd'hui pour faire... informatique est peut-être pas du tout adapté au nombre d'informaticiens dont on a besoin dans 5 ans. Après, j'ai aucune idée de combien ce sera.
Oui, et vous dites le travail, c'est pas la vie. Est-ce que vous, Eugénie, vous le ressentez? Qu'est-ce que, là, vous cherchez un emploi, qu'est-ce qu'il faut pour que vous vous sentiez bien au travail, pour que vous épanouissiez dans une entreprise?
Je pense que la première chose, c'est de bien s'entendre avec les gens qui nous entourent, de quel que soit leur âge. D'ailleurs, je ne parle pas forcément d'être avec un groupe de jeunes. D'ailleurs, dans mon précédent emploi, je me suis très bien entendue avec ma manageuse qui avait 65 ans et on a formé un duo impeccable. On s'est tiré toutes les deux vers le haut. Je lui ai appris plein de choses, comme elle m'a appris énormément du métier. Donc, c'est vraiment, je pense, ça, être bien entourée, être bien payée, forcément, ça joue. On a besoin d'avoir un logement, des vêtements décents, surtout selon l'emploi qu'on incarne. Et moi, par exemple, dans mon précédent emploi, j'avais pas assez d'argent pour pouvoir me payer des tenues dans lesquelles je pourrais être à l'aise lors de réceptions assez haut de gamme, etc. Donc voilà, je pense que c'est les deux critères. Et puis également des missions qui sont intéressantes, qui permettent de nous faire... De nous faire passer du temps, qu'on soit enjoué de faire tout ça. Parce que je vois qu'il y a également beaucoup de personnes qui se font clairement chier dans leur mission, qui même s'ennuient au travail. Et je trouve ça trop triste parce que chacun pourrait avoir une petite chose à apporter et aurait des idées. Mais des fois, c'est comme si on nous bloquait, on bloquait nos initiatives. Donc voilà.
Donc il faudrait des réunions pour que vous parliez tous.
Ah non, il y en a trop des réunions. Il y a trop de réunions.
Alors, on va revenir juste après une petite pause musicale. On va écouter Mathieu avec le titre Ouragan. Il est 20h20 et vous êtes sur Radio Campus Paris.
À saisir cette main qui se tend, les baisers, les secrets inconnus qui m'attend, cet abandon soudain quand je te vois partir. Je me suis senti médusé, un peu comme après l'ouragan. 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 Ton cœur au rythme de mon sang, regretter tout à coup tous mes putains d'égarements. Mon fantôme erre et pleure sur l'océan. Pourquoi faut-il mon cœur revenir sur tous tes sentiments? Revenir sur tous tes sentiments. 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 Un peu comme après l'ouragan. 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 Mon adolescence dont m'a brisé de mes regrets. J'ai refermé les livres du silence en absence marquée d'un signé. Et puis alors, parmi les miens je me tiens en retrait. La vie pourtant par des naissances, je suis seul fermé sur mon secret.
Notre taf toutes les 4 semaines, le mardi de 20h à 21h.
Sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Et tout de suite, on retrouve Hugo et nos invités, Eugénie Lamarlère et Nicolas Lévy, pour la suite de l'interview.
Et on parle du travail. Dans le travail, il y a une notion qui est revenue, qui a été débattue ces dernières années, c'est la semaine de 4 jours, le temps de travail. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'en réduisant le temps de travail, on pourrait améliorer le bien-être et l'épanouissement des salariés, Eugénie?
Je pense que ça dépend un peu du fonctionnement de chacun, parce que c'est vrai que quand on a une semaine de 35 heures, des personnes peuvent faire leur mission en seulement 20 heures et d'autres peuvent avoir besoin de plus de temps. Donc je pense que ça dépend.
Et vous, Nicolas, est-ce que vous seriez prêt à mettre une semaine de 4 jours d'entreprise ou ce serait justement une perte?
Alors moi, clairement pas. Je pense que ça peut être un bon modèle dans certains cas. À mon avis, donc les études ont montré, et je crois dans les études plus que mon opinion, qu'effectivement, dans beaucoup d'entreprises, la semaine de 4 jours, les gens travaillaient mieux. Je pense qu'effectivement, il y a des... Par exemple, des fois, on sort des statistiques ridicules sur... J'ai vu l'autre jour, c'était les pauses quand les gens regardent leur téléphone, qu'elles coûtaient des milliards à la France, quand les gens regardent leur téléphone au travail. Et le calcul qu'ils ont fait, c'est compter le nombre de minutes où ils n'ont pas travaillé et les multiplier par le nombre de gens et le nombre de minutes. Mais c'est ridicule, faire une pause. Hein, le café, ça ne coûte pas d'argent. Le café, il faut faire une pause, il faut se détendre et revenir travailler. C'est beaucoup mieux.
Et c'est obligatoire.
Et c'est obligatoire en plus. Mais donc voilà, donc, la semaine de 4 jours, c'est une sorte de pause un peu spéciale. Et on voit que dans certaines boîtes, travailler 4 jours rend les gens plus productifs que 5. Mon avis, c'est que ça ne marche pas dans toutes les boîtes et que ça marche dans les boîtes où c'est dur, où les gens sont un peu victimes, où le travail est un peu répétitif et où on s'ennuie facilement. Et donc le fait d'avoir plus de pauses rend plus productif. Dans des jobs, par exemple, hyper créatifs, où les gens sont hyper engagés, des boîtes qui veulent tout tabasser avec une équipe hyper engagée, en fait, un jour de plus, c'est un jour de plus. Donc, en tant que dirigeant, j'essaie d'avoir des boîtes de petite taille avec une équipe hyper motivée. Je pense que le cinquième jour, il me sert à quelque chose. Je n'ai pas l'impression qu'on perd un jour par semaine. Mais je pense que pour les grosses, grosses boîtes et dans plein de cas, ça se discute. C'est une super piste.
Et vous avez vécu en Angleterre, vécu et travaillé en Angleterre, Eugénie aussi. Quelle différence y a-t-il au niveau du management entre leur pays et le nôtre? Est-ce qu'il y a des choses à prendre, des choses à retirer?
Moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est le rapport au temps. Donc en France, il y a une petite logique présentielle qui d'ailleurs est compliquée pour si on a, qu'on a une famille ou pas, c'est différent. Mais par exemple, dans les années 90-2000, c'était bien vu de rester tard le soir et on avait des longues pauses déjeuner. Et aujourd'hui, on voit des gens qui ont envie de prendre des courtes pauses déjeuner et de revenir à l'heure. Et notamment parce qu'on met plus de place aux familles. Moi, je suis plutôt de cette école-là. Mais en tout cas, quand on travaillait tard, les gens vous regardaient et disaient « Ah, c'est bien, lui, il travaille tard, il doit vraiment être motivé. » En Angleterre, pas du tout. Alors, évidemment, je fais encore une généralité, hein, ça dépend des boîtes. Mais globalement, quand on termine tard, les gens vous regardent et font « Ah, tu t'es mal organisé aujourd'hui. »
Comme dans les pays du Nord, c'est également le cas. Qu'est-ce que vous en pensez, Eugénie, vous ?
Alors moi, c'est un peu différent parce qu'en Angleterre, j'ai fait du volontariat. Donc, contre le logement et la nourriture, je travaillais pour un hôtel, notamment à Liverpool. Et c'était en plus pendant le Covid, donc vraiment une période pas normale. Et moi, la chose que j'ai remarquée, c'est que j'avais un manager, il était à fond, il travaillait tout le temps, il se démenait pour rendre l'hôtel attractif, même pendant le Covid. Donc il essayait d'appeler, vous savez, des productions cinématographiques pour voir s'ils n'auraient pas besoin d'un logement, etc. Et en fait, moi, je me suis dit, ben moi, en tant que volontaire, je travaille que quelques heures par semaine, je ne gagne pas d'argent spécialement, mais j'ai l'impression d'être plus heureuse que lui.
Alors, je vais revenir sur l'expérience Nicolas. Vous disiez tout à l'heure que vous accompagnez les entreprises et vous les remettez un peu comme cette émission, leur travail un peu dans le bon sens, puisque vous les accompagnez.
J'essaye.
Vous les accompagnez. Et donc, ça veut dire, est-ce que ça veut dire que ça existe déjà, que des entreprises, comme on disait tout à l'heure dans l'édito, qui sont encore au Moyen-Âge, et qu'est-ce qui en ressort de ces entreprises, sans forcément citer hein, des exemples, par exemple, de ce qui peut ressortir, de ce que peut ressentir Eugénie d'ailleurs.
Donc oui, les entreprises sont sur une courbe de Bell, une courbe en cloche en termes de qualité. Il y a très peu d'entreprises qui sont excellentes, très peu d'entreprises qui sont catastrophiques, et la plupart d'entreprises qui sont moyennes. Et la moyenne n'est pas ouf, on va pas se mentir. Donc, il y a deux éléments à prendre en compte. La culture de la boîte. Il y a des boîtes, par exemple, qui sont très culture du chef, et donc votre manager a tous les pouvoirs. D'autres qui sont très mécaniques, comme Microsoft, où on suit tous les process. Et quel que soit votre chef, il va devoir faire exactement, suivre bien la règle qui a été posé à la base. Donc déjà, il y a plein de choses.
C'est pas embêtant quand on veut créer, innover pour la place des jeunes, justement, au sein de l'entreprise qui veulent s'intégrer.
Ça dépend de comment la règle est faite. Si on regarde un laboratoire d'innovation chez Google, il y a plein de règles. D'accord. Et c'est des règles qui permettent la créativité, c'est l'agilité, c'est voilà, bien faite, qui peut fonctionner. Par contre, oui, quand la règle, c'est il faut 6 signatures pour valider un projet, et il faut attendre de... Voilà, je me souviens à une époque dans une grande maison de luxe, n'importe quelle campagne de promotion devait être signée par le Dieu qui était la tête de cette maison de luxe. On va pas dire qui c'est, mais son chat a hérité d'une grande fortune. Et il fallait attendre 6 semaines pour qu'il valide quoi que ce soit, parce que forcément, s'il devait tamponner toutes les choses qu'il avait devant lui, c'était très long. Et donc, moi, j'avais une idée de projet qui pouvait sortir dans 3 semaines pour la fête des mères. On m'a dit, trop tard, l'année prochaine. Donc oui, il y a des règles qui cassent la créativité et qui font ce que tu disais tout à l'heure, ce que vous disiez tout à l'heure, Eugénie, qui est que, voilà, des fois, on a l'impression de perdre notre temps ou d'être freiné. Mais je veux juste appuyer, oui. Pardon, c'est une réponse longue, sur un deuxième aspect. La vraie critère, et ça c'est un conseil pour les jeunes et les moins jeunes qui nous écoutent, le vrai critère qui fait que vous allez être heureux dans un job, c'est le manager. Quelle que soit la boîte, c'est le manager direct, ça toutes les études le montrent, qui a le plus d'impact sur votre bonheur à court terme dans la boîte.
On va parler donc de management toxique, donc c'est ça aussi qui fait que, je pense, génération confondue, mais on en parle, ça existe. Et quels sont justement les défauts de ces managers? Qu'est-ce qui fait qu'ils existent encore en fait aujourd'hui? Parce que c'est eux qui portent le management du Moyen-Âge.
Tu veux répondre, Eugénie? Vous voulez répondre?
Dans mon précédent emploi, donc j'y suis restée presque 3 ans et j'ai cumulé 6 managers différents, tous avec leur tempérament plus ou moins appréciable. Et je me suis dit, en tout cas, je pense que la majorité des managers que j'ai eus, je ne les ai pas vraiment appréciés parce que soit ils étaient trop sur moi à essayer de me poser tout le temps des questions, à essayer de savoir en permanence ce que je faisais, soit ils étaient trop justement laxistes et relâchés. Enfin, il n'y avait jamais le juste milieu. Enfin, j'en ai quand même eu aussi des très bons, comme justement la personne dont je parlais tout à l'heure, celle qui m'a appris beaucoup de choses. Mais je pense que, en effet, ça doit être une... Je pense que c'est tellement important d'avoir une bonne relation avec son manager, mais que ce soit plutôt une complémentarité qu'un pouvoir de hiérarchie.
Donc, construire une entreprise où tous ces postes, ces générations s'entendent bien, donc il y a un bon manager, est-ce qu'il y a d'autres points à améliorer? Vous, comment est-ce que vous enrichiriez l'entreprise pour que ça se passe bien?
Je dirais vraiment... pousser les initiatives de chacun et chacune. Parce que des fois, on est dans un poste, voilà, avec telle mission, mais au final, ça ne nous correspond pas vraiment et on pourrait, hop, ramener quelque chose de plus dans l'entreprise. On pourrait apporter des choses où finalement, on ne s'y attend pas et où personne ne s'y attend. Donc, je pense essayer d'accepter plus d'initiatives venant de chacun et chacune.
Vous, est-ce que pour vous, Nicolas, c'est important l'écoute de l'employé? Ce qu'il peut faire comme mission, ce qu'il voudrait faire comme mission?
Oui, c'est la question posée comme ça, la réponse est évidente, mais du coup, ça veut dire quoi écouter un employé? Donc, en fait, le manager bienveillant, c'est celui qui va laisser la place aux émotions. Si quelqu'un, je me souviens d'un rendez-vous dans un grand magasin de distribution, on ne le citera pas, et donc on fait un tour de table pour essayer de faire une vente. Et donc on est tous assis en rond autour d'une table, et puis on fait un tour de table. Donc moi, je dis voilà, je fais ce qu'on appelle une météo en agilité, qui est en fait, on se présente avec une petite règle du jeu qui est, on va dire, dans quelle émotion on arrive au rendez-vous et ensuite, qu'est-ce qu'on en attend qui va aider à structurer la réunion un petit peu, parce qu'on a compris que la réunion, personne n'adorait. Donc déjà, avoir un objectif et voir si l'objectif des autres sont les mêmes, ça aide à ne pas se perdre. Donc moi, j'arrive et je dis, voilà, je suis un petit peu excité à l'idée de ce rendez-vous parce que je n'ai jamais travaillé encore avec vous et c'est une boîte que je connais bien. J'essaie de montrer qu'on peut être vulnérable. C'est très important, la vulnérabilité en entreprise. Et j'essaie de donner l'exemple. Et bien, ça n'a pas marché du tout. À ma gauche, alors moi, je suis très heureux parce qu'on est toujours très heureux dans cette boîte. Et voilà, et je passe la main à mon camarade qui dit « Moi, je suis très heureux aussi. Et qu'est-ce que j'attends de la réunion ?» Eh bien, je ne peux pas encore le dire parce que mon chef n'a pas encore parlé. Il est derrière moi dans le tour de table. Et je me dis « Ok, on va avoir du boulot ici. » Ça veut dire que vraiment, c'est impossible de ne pas être d'accord avec le chef. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est écouter un employé? C'est montrer qu'il y a un espace. On a le droit de dire « Je ne sais pas », par exemple, en tant que manager. Ça montre à tout le monde qu'il a le droit de dire « je ne sais pas ». D'ailleurs, c'est un truc qui revient maintenant avec l'IA. Vous avez vu que si vous ne laissez pas le choix à l'IA, elle vous sort toujours une réponse et elle hallucine beaucoup. Alors que si vous lui dites « si tu sais, réponds-moi », elle fait moins d'hallucinations. Parce que là, elle dit « je ne sais pas ». Voilà, donc qu'est-ce que c'est écouter un employé? Laisser les émotions, laisser la vulnérabilité et donc parfois laisser des bonnes idées se créer.
Eugénie, vous avez quelque chose à ajouter?
Je voulais juste rajouter que je pense que pas tout le monde n'est aussi capable d'avoir des initiatives. C'est vrai, il y a des personnes qui préfèrent... écouter et suivre la marche et c'est comme ça, donc il y a de tout en fait.
Alors il y avait la dame tout à l'heure qui nous disait il n'y a pas que des flèches ou je ne sais plus ce qu'elle disait.
Oui,
dans le,
des foudres de guerre.
Oui, toutes les idées ne sont pas bonnes et du reste en général quand on arrive dans une entreprise on a, vous savez, le symptôme de Kruger, je crois, Krunig, qui dit qu'en gros on pense qu'on peut tout révolutionner, on voit tous les problèmes mais on ne comprend pas pourquoi les problèmes sont là, donc on a plein d'idées qui sont bonnes mais un peu naïves et en fait pas praticables. Donc ce qui est difficile, c'est qu'un manager apprend rapidement que 90% des idées de ses équipes, et surtout ses nouvelles équipes, ne sont pas applicables à son contexte. Parce qu'on ne le sait peut-être pas, hein. Peut-être qu'en fait, c'est une bonne idée en théorie, mais en fait, là-bas, dans l'autre tour, ils vont nous tuer si on fait ça. Et lui, il le sait déjà. Et il a déjà essayé, et donc il vous regarde et il fait « bah oui, non, ça ne m'intéresse pas ». Et donc, c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à plus écouter les employés, c'est parce qu'on ne voit pas qu'en fait, il y a 10% qui sont utiles.
Et si on devait retenir chacun un conseil pour les entreprises et les auditeurs qui nous écoutent, pour trouver sa place, en tout cas pour conduire aussi une entreprise, s'il y a des entreprises qui nous écoutent, qu'est-ce que vous diriez chacun?
Donc, Ben, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est faire de la place pour les émotions. Et la deuxième chose, c'est faire de la place pour les projets, mais bien les cantonner. Il y a, tu parlais tout à l'heure des nouvelles idées, il y a le build et le run. Le build, c'est quand on veut changer la boîte. Il faut trouver un endroit contenu où on peut faire ça.
Eugénie, si vous devez donner un conseil.
Je pense que ce soit manager ou manager, être à l'écoute de chacun et chacune.
Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette interview. Merci à tous les deux d'être venus. Et donc on va écouter, on va faire une petite pause flash info tout de suite avec Félix. Bonsoir Félix.
Bonsoir.
Le flash info, l'actualité du monde pro. Bonsoir Félix.
Bonsoir. Alors l'actualité de ce mois de septembre. Emprise, humiliation et atmosphère sexualisée, ce sont les mots que l'on peut lire dans un article du Figaro relayant des propos tenus par des employés du festival La Folle Journée. Ils visent le directeur artistique René Martin qui s'est mis en retrait de la structure le 24 septembre, le temps qu'un audit soit mené. La décision fait suite à la publication d'une enquête de Médiacité de la lettre du musicien. Elle révèle notamment que le management toxique de René Martin entre hypersexualisation des rapports et comportement oppressant voire agressif. L'enquête relevait aussi des dépenses excessives et injustifiées alors même que la structure rencontre des difficultés financières depuis le Covid. René Martin dément ces accusations qu'il définit comme fausses, malveillantes et diffamatoires. L'actualité, c'est aussi l'apparition d'une note de l'Inspection Générale des Affaires Sociales le 15 septembre. L'objectif était d'étudier les bonnes pratiques des États européens dans le monde du travail concernant la qualité de vie et de l'emploi, ainsi que sur la prévention dans le domaine de la santé. Une fois comparé aux méthodes françaises dans certaines catégories comme la reconnaissance ou la formation des managers à la coopération, notre pays est moins bon que d'autres pays européens comme l'Allemagne, l'Espagne ou l'Autriche. Elle recommande de créer un programme national de soutien à l'innovation managériale ou encore d'étendre le pouvoir du CSE en matière d'organisation du travail. Enfin, elle rappelle que le management a un effet direct sur la santé, la qualité de travail et l'engagement des salariés. Enfin, pour terminer, le lauréat du prix à penser le travail a été révélé le 1er octobre. Parmi 4 finalistes, le livre de Paul Véron intitulé « Le travail migrant, l'autre délocalisation » a remporté cette édition. Pour rappel, ce prix cofondé par Sciences Po et le journal Le Monde, dont l'objectif est de récompenser des enquêtes, essais ou manuels sur le monde du travail afin de mettre en lumière des enjeux importants nécessitant de la visibilité. Dans son ouvrage, le maître de conférences à l'université de Caen dresse une histoire et une géographie d'une appropriation du travail et des corps migrants par le capital qui tire profit d'une situation de vulnérabilité, peut-on lire dans Le Monde. Le livre est à retrouver aux éditions La Dispute.
Merci beaucoup Félix. Donc on voit bien que par rapport à nos voisins européens, on est encore les Gaulois en France. Tout de suite, on fait une petite pause musicale. On va écouter Ben Mazué avec le titre J'écris et il est 20h36. Vous êtes sur Radio Campus Paris.
J'écris gonflé d'espoir, ou triste comme un dimanche, j'écris quand je veux y croire, ou quand ma bonne étoile flanche, l'essence de mon âme brille, quand je mets des mots sur les émotions qui torpillent mon cœur jusqu'au stylo, j'écris pour expliquer, parce qu'en expliquant j'éteins un malaise qui veut pas me lâcher. Depuis le matin j'écris, tant pis si c'est mauvais, et tant pis si c'est perdu, c'est une question d'équilibre, et c'est pas toujours pour être lu. Le sort est un poème, le destin est un roman, avec la mort comme emblème, pour que chaque moment compte. Pour rendre hommage, j'écris dans mon orage, j'écris pour que tombe sur les pages des mots qui font sécher couler des larmes. Sur nos virages, j'écris, et ton visage me dit qu'il n'a pas cessé d'être ma plus belle arme. Pas cessé, même après s'être quitté. Pas cessé, même après s'être quitté, d'être ma plus belle arme. Pas cessé, oh, même après s'être quitté. Pas cessé, même après s'être quitté, d'être ma plus belle arme. À ma mère, à ma femme, à mon gosse, à mes peurs, à mes cris, à ma crasse, à la terre, à la sale sorcière de mon cœur. Quand la vie de tempête imminente agite un drapeau rouge et noir, que le bruit dans ma tête augmente pour le faire taire, pas moi j'en parle. Le sort est un poème, le destin est un roman avec la mort comme emblème pour que chaque moment compte. Pour rendre hommage dans mon orage, pour que tombe sur les pages des mots qui font sécher couler des larmes. Sur nos virages et ton visage qui n'a pas cessé d'être ma plus belle âme. Passer c'est même après s'être quitté. Passer c'est même après s'être quitté d'être ma plus belle âme. Passer c'est oh, même après s'être quitté. Passer c'est même après s'être quitté d'être ma plus belle âme. Ton esprit court, chante, presse ton âme de s'exprimer. Dans ce monde lance des pics, faudra s'en protéger. Dans l'esprit court, chante, presse ton âme de s'exprimer. Moi j'aimerais n'avoir qu'à me soucier de rendre hommage, d'écrire dans mon orage, d'écrire pour que tombe sur les pages de ma vie des mots qui font sécher couler des larmes, d'écrire sur nos virages, d'écrire et ton visage me dit qu'il n'a pas cessé d'être ma plus belle arme.
La Compte Interview, innovation métier.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Ça innove à contre-taf.
C'est dur de travailler pour vous, on est heureux comme des fous.
Innovation et transformation du moment à découvrir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Azouani et Sofiane Leilani, les fondateurs de Wapli et Hugo en contre-interview.
Oui, bonjour, bonjour Vincent, bonjour Sofiane, comment vous allez ?
Bonjour, bah très très bien, super. Alors, bien.
Vous êtes les fondateurs de la start-up Wapli, une start-up afin de trouver du travail, afin de faire rencontrer les employés et les employeurs. Ça consiste en quoi, Wapli ?
Wapli, ça consiste en facilitant l'accès à l'emploi. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que trouver un emploi, c'était vraiment très difficile. Et c'est vraiment devenu difficile au point que certaines personnes doivent s'afficher dans la rue à la Défense avec des plaquettes écrites « Je cherche un CDI ». Et c'est pas normal que ça soit aussi difficile. Donc on a créé une application de mise en relation anonyme entre candidats et recruteurs qui s'inspire des applications de rencontres et qui utilise l'intelligence artificielle pour créer le match.
Donc c'est du semi-anonyme, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que le semi-anonyme ?
C'est ça, c'est-à-dire le recruteur, il n'a pas accès au prénom, au nom, à l'âge, à l'adresse, au genre du candidat. Il va juger le candidat que sur ses expériences et ses compétences.
Est-ce que ça concerne tous les types de travail ? Parce que j'imagine un travail de service ou d'accueil, ça peut être compliqué pour un employeur s'il n'a pas la photo ou le devant soi ?
Bah, en soi, normalement, ça devrait... C'est fait pour tous les types de contrats, tous les types de travail. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de savoir la tête d'un candidat pour savoir s'il va bien accueillir un client ou pas.
Mais est-ce que vous comprenez qu'un patron, quand même, quand il fait de l'accueil, il peut choisir une tête, mais justement, oui, donc c'est pour lutter contre la discrimination à l'embauche.
Exactement. Après, le patron, il pourra choisir un peu, utiliser ses billets, on va dire, liés à l'identité lors des entretiens, mais au moins, il pourra accueillir un candidat à l'entretien avant de le juger.
Alors, comment on crée son profil ?
Bah, en fait, c'est très très simple. C'est un peu comme ce qu'on peut retrouver sur les applications de rencontre ou d'autres types d'applications. Donc, grosso modo, c'est tout simplement, on s'inscrit et puis ensuite, on a réfléchi à un parcours utilisateur qui soit le plus simple possible et la personne a tout simplement à créer son profil en se mettant en avant à travers des vidéos de présentation, des photos et en mettant en avant ses expériences pro et ses formations. En d'autres termes, il faut compter pas plus de 3 minutes pour pouvoir s'inscrire.
Du coup, les photos que ne verra pas l'employeur ?
C'est ça. En fait, il faut savoir que, grosso modo, en fait, les informations telles que les photos apparaîtront uniquement seulement quand il y a le match, quand l'employeur a matché avec le candidat. Là, la photo ça s'affiche.
Et est-ce que l'employé, le candidat, il voit la photo de l'employeur ?
Alors, il ne voit pas la photo de l'employeur parce qu'aujourd'hui, en fait, un candidat, lui, n'est pas rentre dans une structure. Donc lui, il a accès à la marque employeur du recruteur. Donc il peut voir des photos des équipes, il peut voir des vidéos des équipes, il peut voir un peu comment se passe dans l'entreprise, mais il n'a pas de photo du recruteur parce qu'il n'est pas en contact avec le recruteur tout au long de sa carrière.
C'est ça. En fait, aujourd'hui, c'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, on joue beaucoup sur la marque employeur et la marque employée. Et effectivement, en tout cas, toute la partie biais discriminatoire s'adresse plus pour le candidat que pour le recruteur.
Quand on pense à la discrimination, moi je pense aussi à la religion. Quand on va en Angleterre, quand on va aux États-Unis, on va voir des serveuses, des caissières qui sont voilées et ça pose aucun problème. En France, c'est pas le cas. Est-ce que votre application, justement, elle évite ce genre de soucis?
Bah alors, notre application, on ne peut pas changer l'humain. En disant, on ne peut pas changer non plus un peuple. Aujourd'hui, il y a des biais en France qui sont beaucoup plus présents qu'en Angleterre, enfin que dans les pays anglo-saxons. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous? C'est déjà proposer à une femme, par exemple, qui porte le voile, de rencontrer un recruteur qui l'accepte avec son voile. Nous, notre intelligence artificielle va regarder les interactions du recruteur, va regarder les interactions du candidat et va lui pousser les opportunités qui correspondent le plus à ses attentes et aussi à sa personne. Donc si on voit aujourd'hui qu'un recruteur, il va à chaque fois refuser des candidatures de personnes qui portent le voile, en fait, on va faire perdre plus de temps au candidat, à une femme voilée, d'aller lui proposer sa candidature que de lui proposer directement un recruteur qui, on sait, lui, est ouvert à ce port du voile. Et aujourd'hui, Wapli, ce n'est pas un job board, c'est un mouvement. Et si aujourd'hui, plus on aura de soutien, plus on aura de personnes sur l'application, et plus aujourd'hui, on ira voir les entreprises, on leur dira soit tu travailles avec nous, soit tu es contre nous, mais être contre nous, c'est être contre la diversité.
Okay. Et depuis combien de temps ça existe Wapli?
Alors le projet, ça fait 1 an et demi qu'on le porte. On s'est fait accompagner d'abord par des programmes d'accompagnement, parce que le job board, les startups, la Startup Nation, c'est quelque chose d'assez difficile, surtout que nous, on a des profils un peu atypiques, on vient de quartier, de la banlieue, voilà, c'est pas du tout notre écosystème de base, donc on a dû apprendre l'écosystème, et là maintenant, ça fait 3 mois qu'on a lancé l'application sur Google et le web, on est en attente pour Apple, on a déjà atteint les 10 000 utilisateurs sur l'application, on a plus de 250 entreprises qui travaillent avec nous, et on a fait plus de 300 mises en relation.
Ok, très bien. Et alors, les résultats au niveau des employés, vous m'avez dit 250 000 mises en relation.
Pour... 250.
150. Pour combien de travail réellement trouvé?
Bah là, on a actuellement, à date, on a 100 recrutements qui ont été effectués en 3 mois. Ce qui est vraiment pas mal.
Alors, quand je vois Wapli, je me dis que c'est un peu inspiré de Tinder.
Oui.
Tinder qui est décrit comme un supermarché de l'amour par certains. On a du mal à trouver quelqu'un avec qui construire une vraie relation. C'est plutôt les coups d'un soir. Est-ce que vous garantissez qu'avec vous, on peut construire une relation, une vraie?
Bah en fait, ce que Tinder a fait qui est bien, c'est l'expérience utilisateur. Elle a créé une expérience utilisateur qui nous permet de rencontrer quelqu'un rapidement sur certains critères. Donc, au niveau de ça, c'est pas mal. Après, le fond de Tinder et le fond de Wapli, ça n'a rien à voir.
J'imagine, sinon c'est problématique pour vous et pour Tinder.
Sinon, ça fait la culture du swipe. Et nous, là, on veut créer plutôt le swipe dans l'expérience utilisateur, dans la réduction de la charge mentale, dans la manière dont les deux personnes se rencontrent, mais pas dans la finalité.
Après, si je peux juste rajouter quelque chose, en tout cas là-dessus, au niveau du swipe, le gros plus de notre solution, c'est que aujourd'hui, un candidat, lorsqu'il va émettre son offre de recherche, va tomber uniquement sur les offres d'emploi qui correspondent à son offre de recherche, et vice versa vis-à-vis de l'employeur, qui lui, lorsqu'il va émettre une offre d'emploi, bah il va recevoir uniquement des candidats qui correspondent à son offre d'emploi. Donc,
ok, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi les secteurs les plus représentés dans votre application?
Alors, c'est les secteurs les plus représentés dans l'application, c'est un peu les secteurs les plus représentés en France, malheureusement, en termes de recrutement. On a beaucoup de services aux entreprises, donc tout ce qui est communication, informatique, commerce. Après, on a aussi beaucoup aussi de jobs un peu liés aux jobs saisonniers, vu que c'est un peu de la période, dans tout ce qui sera hôtellerie, restauration. Mais on essaie vraiment de s'ouvrir. En fait, on a des stratégies, nous, de prospection vers les entreprises qui font qu'on va s'ouvrir à tous les métiers et d'ici fin 2025, on sera à peu près à 30 000 offres d'emploi sur l'application.
C'est seulement en France ou c'est aussi en Europe?
L'objectif, c'est d'être en international. Moi, je vous dis la vérité, parce que le problème de l'emploi aujourd'hui, c'est un problème mondial, malheureusement. Ouais. Et l'avantage de s'être inspiré de Tinder, c'est que l'expérience de Tinder est à l'international. Donc en fait, on peut directement s'implanter là où, dans les pays où Tinder s'est implanté. Et le but de l'application, c'est de, en 2026, s'ouvrir dans de nouveaux pays et de step by step, d'année en année, de prendre de plus en plus de territoire.
Sur votre site, il y a aussi une partie, le média, où vous rédigez des articles sur les métiers peut-être qui embauchent. Je ne sais pas, ça concerne...
C'est ça.
Ça concerne quoi?
Le média, en fait, c'est un projet parce qu'aujourd'hui, on a deux stratégies. Déjà, être un média, c'est aussi avoir une certaine visibilité. Avec Welcome to the Jungle, nous ont montré qu'avoir un média et une start-up qui sont combinés, ça nous permet d'avoir de plus en plus de visibilité. Mais aussi, on s'est rendu compte qu'en faisant des enquêtes, que les jeunes ne connaissaient pas des métiers. Par exemple, votre métier à vous, il y a plein de jeunes qui ne savent même pas que ça existe. Ils pensent que c'est commercial qui existe. Et nous, ce qu'on va faire avec le média, c'est faire découvrir des métiers et comment rentrer dans ces métiers-là. aussi interroger un peu dans des postcards, par exemple, des DRH, des représentants de certains métiers. Par exemple, une avocate noire, voilée, vraiment qui sort un peu des clichés, on va dire, des avocats. Et ben, comment elle arrivait à atteindre ce métier-là? Et aujourd'hui, c'est pour montrer aux gens que c'est possible.
Et pourquoi est-ce que vous avez eu cette envie, vous, de faire bouger les lignes comme ça?
Parce que moi, j'ai un parcours assez atypique. Moi, je suis une personne en situation de handicap. À cause de mes handicaps, j'ai dû quitter l'école assez tôt, donc après le bac, parce que j'étais en échec scolaire, parce que le programme, on va dire, scolaire et mes handicaps n'étaient pas du tout faits pour travailler l'un avec l'autre. Et en fait, quand je suis rentré dans le marché de l'emploi, je me suis rendu compte que c'était très difficile. C'était quelque chose que j'entendais depuis petit dans les médias. Et le déclic, c'est en sortant de formation après le Covid, j'avais accumulé de nouvelles compétences. J'étais directeur commercial parce que j'ai réussi par le travail à monter dans mes compétences. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'étais en train de chercher un boulot et que ma mère, qui n'était pas du tout dans les mêmes critères que moi, d'âge, de compétences, de formation, de secteur, était en train de chercher aussi un boulot et tous les deux ont galéré. Je me suis dit, attends, comment on est deux personnes totalement différentes à rencontrer les mêmes galères? Et après, j'ai commencé à creuser. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un problème qu'énormément de personnes rencontraient. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, Vincent, au lieu d'être passif, bah, je vais passer à l'action et je vais prendre toutes les compétences que je maîtrise en commerce, en communication, en marketing et en vision pour venir sauver l'emploi.
Sauver l'emploi, ça passe aussi, on en a parlé avec les invités juste avant, par le salaire, qui ne sont pas assez hauts dans beaucoup d'emplois. Est-ce que sur votre application, on voit le salaire directement? Est-ce qu'il est toujours affiché?
Alors au début, on voulait, pour vous dire, je suis trop transparent, au début, on voulait faire ça. On voulait tout le temps afficher le salaire. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient du mal à travailler avec nous à cause de cette question du salaire.
Parce que souvent, ils mettent un écart, ils mettent entre temps et
c'est
temps.
C'est ça. Ou sinon, ils disent non divulgué. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On incite les entreprises à mettre le salaire, mais maintenant, on accepte malheureusement des offres d'emploi sans salaire parce qu'on est obligé aussi de s'aligner au marché parce que sinon, nous-mêmes, on va se mettre une balle dans le pied. Mais en sachant qu'il y a une nouvelle directive qui est arrivée qui oblige les entreprises à mettre leur salaire dès 2026 et on sait que ça va vraiment rentrer en pratique dès 2027.
Ça, c'est partout en France?
Exactement, même en Europe, je crois bien.
Ok, donc sur tous les sites, donc que ce soit ouais. Votre application à vous.
C'est
alors,
ça.
Okay. Et c'est quoi pour vous le plus gros frein à l'emploi chez les jeunes?
Oula, bah y en a beaucoup. Bah il y a déjà le fait la juniorité. Alors, je sais pas si on peut dire ça comme ça, juniorité, mais grosso modo le fait de tout simplement lorsqu'on sort d'école, on n'a pas d'expérience et du coup c'est un gros frein. Tout de suite les employeurs se disent oula, la personne elle est trop junior, c'est trop théorique ce qu'elle a fait, je veux pas du tout je peux pas l'embaucher, il me faut au moins une personne qui a 3 ans d'expérience. Donc ça c'est le premier frein et puis ensuite il faut dire ce qu'il y a, hein, aujourd'hui le marché de l'emploi est très ralenti, notamment par le contexte économique actuel. Et pour le coup, ça rajoute un poids en plus sur la recherche d'emploi des profils les plus juniors. Et mis à part les profils les plus juniors, il y a aussi les seniors qui sont très touchés aussi par ce problème-là.
Moi, je veux juste rajouter 2 choses aussi. Il y a quelque chose aussi que les entreprises doivent comprendre, c'est la marque employeur. C'est être visible. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont créé de la visibilité. Et beaucoup d'entreprises ont du mal à se rendre visibles. Parce qu'aujourd'hui, moi, on est en contact avec des entreprises qui ont du mal à recruter, on est en contact avec des candidats qui ont du mal à trouver du boulot. Donc en fait, c'est un problème aussi de visibilité. Les candidats et les recruteurs ne se rencontrent juste pas.
Mmh. Très bien. Et est-ce que les jeunes ont encore envie de travailler?
Ah bien sûr. Il y a beaucoup de clichés sur les jeunes qu'on entend, mais les jeunes ont, pour vous dire, les jeunes ont plus faim qu'à l'époque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, travailler, c'est une liberté financière. Aujourd'hui, pourquoi il y a plus de demandes d'alternance qu'il y a 5 ans? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes savent, ils disent, ok, je fais mes études, mais pendant que je fais mes études, je peux me faire plaisir, je peux sortir, je peux m'acheter mes vêtements, je peux être indépendant. Les jeunes veulent de l'indépendance. Donc, il faut que le marché s'aligne à l'indépendance des jeunes. Et aujourd'hui, les jeunes, moi, je le vois, ils sont encore plus déterminés qu'à l'époque.
Merci beaucoup. Merci à vous deux.
Et si on veut vous suivre, où est-ce qu'on peut vous trouver?
Sur Instagram, sur le web, sur LinkedIn, c'est wapli.io.
Merci beaucoup. Alors, en tout cas, moi, je suis en totale admiration. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. L'horoscope des métiers.
C'est quoi ça?
Salon et les secteurs qui recrutent. Alors, c'est l'horoscope des métiers tout de suite. Les salons, alors aujourd'hui, on va parler du salon de l'étudiant consacré aux métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Et ce sera le samedi 18 octobre à l'espace Charentan à Paris 12. Sur place, vous pourrez rencontrer des écoles, universités et organismes de formation spécialisés dans les domaines donc, du tourisme, de l'hôtellerie et la restauration. Échanger directement avec des professionnels du terrain, chefs, directeurs d'hôtels, responsables d'agences de voyage ou d'événementiel. Et vous pourrez aussi assister à des conférences sur les débouchés, les nouvelles tendances du tourisme durable. ou encore sur les carrières internationales. Bien sûr, obtenir des conseils personnalisés pour affiner votre orientation. Ce salon s'adresse aux lycéens, étudiants, jeunes diplômés, aux personnes reconversion attirées par des métiers humains ouverts sur le monde. L'entrée est gratuite, mais l'inscription est recommandée sur le site officiel. En deuxième annonce, on aura donc du 1er au 20 octobre 2025 la quinzaine de l'emploi recruté autrement qui se déroule partout en Île-de-France. Pendant 3 semaines, vous pourrez participer à de nombreux événements, rencontrer des recruteurs et découvrir des modes de recrutement innovants. Au programme, les forums de l'emploi, des job dating, des conférences ou des ateliers pratiques destinés à faciliter la rencontre entre entreprises et candidats. Cette initiative est portée par la CCI Paris-Île-de-France et donc met l'accent sur la diversité des parcours, la reconversion professionnelle. Que vous soyez donc en recherche d'opportunités ou entrepreneur en quête de nouveaux talents, eh bien cette quinzaine est une excellente occasion pour créer des contacts. Les informations et le programme sur le site de la CCI. On revient tout de suite après une petite pause musicale. On écoute Lola Yang avec son titre Messi. Restez avec nous, il est 20h54 sur Radio Campus Paris. Merci beaucoup. Nous avons écouté Lola Yang avec son titre Messi. Et tout de suite, on retrouve Hugo pour sa chronique humoristique.
Oui, alors comment ça va, Francesca? T'as vu l'actu pro, c'est un peu bouillant là.
Ouais, c'est un peu bouillant à mon goût. Ouais.
Bon, si vous en avez marre de votre boulot, arrêtez de pleurer sur votre sort parce qu'hier, il y a eu 19 personnes qui l'ont aussi perdu. Alors faites comme Sébastien, démissionnez, mais manque de peau pour lui. Il a son patron qui l'a rappelé juste après. Bouh ! Tu restes encore 48 heures, lui a dit son manager toxique. Alors, est-ce que c'est illégal, ça ? Eh bien oui, quand le contrat est fini, il est fini ! À part si vous acceptez, bien entendu, et qu'il verse une prime exceptionnelle. Pauvre Premier ministre, parce qu'il a quand même supprimé tous ses avantages. Il n'aura donc rien après la fin de son poste. Bouh ! Alors, trouver du travail, c'est pas toujours facile. Et en plus de ça, trouver un travail qui te plaît, c'est encore plus difficile. Alors, comment on fait ? Un petit boulot mal payé ? Un boulot ingrat mieux payé ? Un boulot qui n'est pas vraiment aligné à ta morale de vie, mais bien payé ? Ou donner de la tête, car oui, aujourd'hui, les jeunes travaillent différemment. Alors, pourquoi est-ce qu'on travaille différemment ? Pourquoi est-ce qu'on a plus de jobs dans nos vies que nos aînés ? Eh bien, tout d'abord, nous ne sommes plus définis par notre travail. En effet, à l'époque, tu étais mécanicien, et tu étais mécanicien toute ta vie. Et t'as pas beaucoup de congés. Aujourd'hui, nous voulons 5 semaines de congés par an, et on veut aller écarter nos gros orteils sur la plage tout l'été. Non, je veux pas travailler en août. Jamais. Il y a aussi le fait que nous savons que c'est possible et que c'est légal d'être payé en fonction de ses heures de travail et surtout d'avoir des congés et de pouvoir profiter de ses amis, de sa famille et de ses loisirs. Les vacances coûtent moins cher qu'avant, les avions coûtent aussi moins cher qu'avant, donc pourquoi pas partir avec Ryanair une semaine en Grèce, avec bien sûr tout Paris, parce que tout le monde a la même idée en août et surtout que tout le monde adore la feta. Il y a aussi un manque de vision dans notre génération. Et oui, à l'époque, on savait qu'on allait avoir la retraite, qu'on pouvait en plus l'avoir assez tôt pour profiter de ses enfants, de ses petits-enfants, de sa famille et de ses loisirs. Aujourd'hui, on ne sait pas à quel âge on en verra la couleur, puisque aujourd'hui, l'âge de la retraite recule en fonction du gouvernement en place, pour autant qu'on en est un, bien entendu. Le Covid a aussi joué un rôle en apportant le télétravail et en nous faisant réaliser que notre travail ne nous définit pas. Des assureurs se sont retrouvés une passion pour le saxophone et tout le monde a réalisé que quand le monde s'arrête, eh ben, il s'arrête. En tout cas, si vous cherchez du travail, il y a 18 postes et bientôt 19 de disponibles et ça a l'air très facile. Il y a tous les domaines, l'économie, le droit, la finance, l'agriculture, l'éducation, l'habitat et même l'armée. Youpiou ! Peu importe ce que vous avez étudié ou quelles sont vos aspirations, foncez, envoyez vos CV à manu.macro@gmail.com. Bisous, bisous et profitez bien du monde du travail, il est magnifique aujourd'hui.
Merci beaucoup Hugo, bien sûr on finit avec le sourire, parce que le monde du travail c'est aussi ça. Alors c'est la fin de cette émission à Contre-Taf, c'était Francesca l'animation, merci à nos invités Eugénie Lamarlère et Nicolas Lévy. Merci Hugo pour la co-animation, pour cette interview et la préparation. Merci Félix pour le Flash Info, Simon à la Réal. On revient le mois prochain, le 4 novembre, même heure, même fréquence. D'ici là, rendez-vous sur radiocampusparis.org pour écouter cette émission en podcast ou sur notre page Instagram à Contre-Taf.
Ciao.
Très bonne soirée sur le 93.9 et au mois prochain.